Genèveactive.ch.
La loi de Murphy est arrivée après le désir de faire un spectacle. C'est moi qui ai amené la ressource de Murphy. Premier intérêt pour cette loi, c'est un intérêt ludique. Parce que ça arrive à tout le monde, c'est les petits emmerdements du quotidien qui embrouillent vraiment, qui rendent les choses assez délicates dans la vie. Des fois, on est de mauvaise humeur, on est salaud avec les gens, simplement parce qu'on a des petits emmerdements comme ça. Après, on a réfléchi autour de cette loi, on a fait des recherches, on a rencontré un mathématicien qui nous l'a expliqué. Après, on est allé davantage vers le désir d'universaliser le propos, pas de rester dans l'anecdotique parce que, de dire qu'on a des tartines sur le pantalon, c'est pas suffisant. Puis, le propos universel, il nous fait tendre vers une réflexion sociale, métaphysique, presque spirituelle à certains moments. On peut accepter ou pas d'être l'otage de lois de ce genre-là.
Qu'est-ce qu'il en était sur ce dialogue entre surface et profondeur dans cette pièce, avec cette relation que vous avez toujours très particulière avec le monde de l'enfance?
La surface, c'est ce qu'on constate, ce qu'on doit être dans la société, le cadre dans lequel on doit vivre, les normes, les modèles dans lesquels on doit se confronter. Enfin la réussite sociale, c'est le mariage, la maison, etc. Mais ça suffit à la limite au monde pour que le monde soit content et puis qu'on peut rouler comme ça. Mais là-dedans, il y a des drames humains, il y a de la souffrance, il y a de la joie, il y a de l'intimité, etc. Et puis, je pense que si on va dans la profondeur de ce modèle-là, on arrive dans le réel, finalement, qui est toujours beaucoup plus complexe que l'image qu'il en donne. Effectivement, il y a un rapport au monde de l'enfance. Quand on est dans ce monde subaquatique-là, dans la vie réelle, on n'a plus la protection. Si on montre si on révèle ce monde-là, on est en proie aux critiques, aux commentaires, aux jugements de valeur et à toutes ces choses-là, parce qu'on peut fonctionner un peu autrement, parce qu'on diverge. Ça a trait à la nostalgie, peut-être de l'enfance, où on ne se rendait pas forcément compte de tout ça, où on était protégé, où quelqu'un faisait, le capitaine Farragut, le scaphandre pour nous. Et puis à un moment donné, le scaphandre n'existe plus. On se rend compte qu'il y a des injustices dans le monde, on se rend compte que ce n'est pas drôle tous les jours, que nos parents s'engueulent, qu'ils se trompent, qu'on arrive vers des problématiques politiques, sociales, etc., qui nous indignent. Et puis on n'a plus cette bulle de protection. Alors il y a effectivement une sorte de souffrance de l'adulte.
Il y a aussi cette notion de naître ou ne pas naître dans le sens naissance. Il y avait déjà ça dans Nature morte avec œuf, avec justement cette maternité tératologique. Puis ici, il y a également chez le personnage de Clémence Première, ce besoin justement, je crois qu'elle regrette à un moment d'être née, mais ça va bien au-delà des emmerdes. Je crois qu'il y a une volonté vraiment de rentrer à nouveau dans ces eaux intra-utériques, sur ce côté de la naissance.
Ça me fait penser à Sandra qui disait « Merde, je veux pas vivre » au moment de la naissance, en sortant dans mon ravagine, je crois. C'est ce que dit aussi Clément, c'est qu'on n'a pas le choix finalement. On n'a pas le choix, on est là, le sens on le trouve pas, on l'invente, ou on fait avec, ou alors on sait qu'il n'y en a pas, mais on essaie de profiter de ce qui existe. Et puis, on est devant un vertige métaphysique. La seule solution, ce serait de pas être né. Mais on y est, donc qu'est-ce qu'on fait ? Soit on s'accroche à ces modèles, aux modèles qui existent, soit on crée le sien et on cherche dans le vide, sachant qu'à la fin, la solution, il n'y en a pas. Puis on espère que le vide sera un peu sympa avec nous, qu'il n'y aura pas trop d'emmerdements, et puis qu'on va trouver des petits bonheurs, comme Clémence. Je suis en train maintenant d'écrire un nouveau texte jeune public. Je suis visiblement de nouveau dedans. Ça parle effectivement de ça aussi. Je pense que l'indignation qui arrive au moment du passage de l'enfance à la plus enfance, c'est ce qui est la source de l'écriture, je pense. L'indignation de voir ce qu'est le monde, puis de voir quelque part qu'il n'est pas conforme à ce qu'on nous a dit dans les contes de fées et puis dans toutes ces histoires-là.
Alors, ce monde arrive justement par le biais d'incises évoquant à la fois les Khmers rouges, Tchernobyl, le forcené entre guillemets de Bienne, et puis également à la fin nous n'irons plus en Libye. Cette manière de convoquer le monde comme ça, qui est très différente d'une écriture comme celle de Lucas Barfoust ou de Falk Richter, qui sont aussi des personnes qui travaillent, disons, avec ce rapport à la fois au corps, à la société, au quotidien. Pour quelles raisons en fait ces incises ici? Il y a un moment donné, il y a aussi, je crois, un programme radio, une phrase qui revient comme ça, comme une ritournelle.
Je pense que pour l'instant, c'est parce que j'ai pas trouvé d'autre manière de le faire. Parce que si on veut parler du monde et de ce qui est complètement révoltant dans le monde, le premier réflexe, c'est de faire du théâtre militant, mais qui est plus du tout valable, que le public reçoit plus du tout aujourd'hui. On est quand même dans une tribune publique, avec des gens qui viennent, qui sont a priori disponibles pour entendre des choses. Si on leur dit des choses de manière frontale, ils reçoivent pas, ils refusent le spectacle. Alors il faut essayer de trouver soit des paraboles pour le dire, mais ça atteint pas forcément sa cible. Et puis la solution provisoire que j'ai, mais peut-être que je suis encore en recherche, c'est ces petites incises-là, pour l'instant. Il y en a dans les Chevaliers Jedi, ont-ils un bouton sur le nez, il y en a dans celui-ci, ces incises-là. J'aimerais trouver autre chose, peut-être que quelque chose sur le mauvais goût, avec énormément de mauvais goût, m'y ferait parvenir autrement. Je lisais aujourd'hui une bande dessinée de... Une relecture de Pinocchio, publiée par les Requins Marteaux, qui est d'extrêmement mauvais goût, qui est extrêmement violente, avec quand même un humour qui permet de montrer, de faire ce que je fais avec ces incises-là.
Qui est cette Clémence? Au départ, il semblerait que avant ce dédoublement à la Vanessa Beecroft, si on prend une plasticienne, il y en a d'autres, j'entends, avec ses perruques blondes, mais c'est vrai que cette figure à la fois gemellaire et décalée, au départ, je crois qu'il était aussi question, puisque c'est beaucoup une écriture de plateau, d'avoir un personnage marionnettique, hein, en face une marionnette manipulée, qu'on va retrouver dans cette démonstration avec un gant, lorsque, disons, il y a une forme d'auto-érotisme que développe Clémence II. D'où est venue cette idée de dualité chez cette Clémence? Comment est-ce que vous l'avez un petit peu développée dans leur discours et absence au monde respective? Il y en a une qui est plutôt paratonnerre en merde et puis l'autre qui, disons, essaye effectivement par une sorte de coaching de pouvoir se préserver de toute atteinte extérieure. Comment est né un petit peu ce caractère duel? C'est pas une nouveauté hein, dans la dramaturgie.
Ce qu'on avait au départ, c'est effectivement une écriture de plateau. Hein. Donc c'est des recherches avec essais-erreurs de plateau et puis avec des corrections au niveau du texte après. Ce qui était à la base de cette recherche-là, c'est une évolution simplement. Qu'il y avait la Clémence d'avant, à qui il arrive toutes les embrouilles, qui s'en sort pas, qui est vraiment au fond du trou, puis on en rigole. Et puis c'est effrayant. Comme on rigole du petit gros à la cour de récré, comme on rigole du... Et puis après, il y a la Clémence II qui arrive avec toute cette construction sociale, ce modèle, qui finalement est un modèle assez petit bourgeois, confortable, très helvétique aussi, où on essaie de prévoir tous les risques possibles et imaginables. Et puis si une fois quelqu'un se tord une cheville dans une foule immense, on va chercher des accusés qui n'ont pas prévu ce coup-là. C'est cette évolution-là. Le dédoublement arrive de cette évolution-là. Après, il y a aussi un truc qui est arrivé par nécessité de la scène. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a pas engagé des gens par rapport au rôle qu'on avait dans la pièce, mais on a engagé des gens par intuition, par goût de travailler avec eux pour former une équipe. Et puis dans cette équipe, il y avait deux femmes, deux comédiennes, et il y avait un rôle féminin. Donc il a fallu trouver des solutions, simplement.
Genève Active.ch